And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
Hey, Frank, a little birdie told me you don't need a satellite dish to get DirecTV.
What's little birdie?
Was it Jimmy the Sparrow?
It's a figure of speech. Point is, you can stream DirecTV over the internet now.
Oh, sure. Next you're going to tell me those big birds are made of metal and filled with people, right?
You mean airplanes?
Stream DirecTV without a satellite dish. Call 1-800-DIRECTV. Terms and restrictions apply.
As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code The Athletic, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10. Place your first bet on any game and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Bon jeudi tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et au lendemain de ce premier match du Canadien, il me fait plaisir de parler avec Arpin Basu. Mon ami Arpin, bonjour, comment ça va?
Ah, ça va super bien Marc-Antoine, je me suis couché très tôt hier soir, puis c'est ça, j'avais pas grand chose à faire, alors un plaisir de te parler ce matin, aujourd'hui je veux dire, le lendemain d'un premier match de la saison 2021. Divertissant, c'était le fun, écouter un match de hockey, puis je trouvais que Canadiens, même s'ils ont perdu, ont pas mal bien paru.
Ça a donné un bon spectacle. Après la rencontre, Josh Anderson disait que il a répété plus d'une fois qu'à son avis, le Canadien formait la meilleure équipe sur la patinoire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. N'eût été de ces deux pénalités là, qui ont mené un 5 contre 3 en fin de deuxième période. Il y a eu un but également qui a été sur un plateau d'argent pour les Maple Leafs à la suite d'une rondelle que Jonathan Drouin a essayé une passe soulevée qui a bifurqué sur un arbitre et la rondelle est revenue dans l'enclave. C'est des choses qui... C'est sûr que le Canadien est responsable de ces infractions, mais en même temps, quand tu regardes l'ensemble du jeu à 5 contre 5, à part peut-être les présences du trio d'Austin Matthews qui a globalement eu le dessus sur le trio de Philippe Dano, je te dirais que sur l'ensemble du flow du match, si tu veux me passer l'expression, j'ai l'impression que le Canadien quand même a très très bien paru puis n'a pas du tout à rougir de la façon dont les choses se sont passées.
Non, mais dans le même sens, tu sais, à 5 contre 5, les buts pour et contre étaient 2 à 2. Je comprends les circonstances que tu viens de mentionner. Deux buts en avantage numérique pour chaque équipe. Alors, les Canadiens n'ont pas vraiment donné le match en unité spéciale nécessairement. Les autres aussi ont pu marquer une couple de fois. Alors, tu sais, je pense que le Canadien a bien joué puis probablement été la meilleure équipe sur la glace, sauf que tous ces autres aspects comptent. Tu sais, oui. Le fait que Shea Weber a pas mal bêtement envoyer la rondelle dans les estrades. Une chance que personne n'était là. Mais il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas vraiment besoin. C'était une erreur qui n'était pas forcée, disons. C'était une erreur qui était très évitable. Puis dans cette situation-là, c'est une erreur que tu ne peux pas te permettre, particulièrement contre les Maple Leafs, puis ça va être particulièrement contre les Oilers pour les prochains deux matchs, et ça va encore être particulièrement contre les Canucks pour les trois matchs après ça. Les Canadiens ne peuvent pas se permettre de donner des avantages numériques gratuits à ces trois équipes-là particulièrement, mais en général, c'est vrai dans tous les matchs, mais quand tu joues dans une division, quand tu vas être dans une bataille dans cette division-là pour accéder aux séries contre ces trois équipes-là principalement, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Alors écoute, c'est le premier match, ça arrive. Il y a des punitions qui sont forcées par l'adversaire, mais je dirais que dans plusieurs cas dans ce match-là, c'était pas nécessairement le cas du Canadien, c'était juste des punitions de malchance ou juste manque de concentration plus que manque de discipline. Là. Mais je pense que le point d'Anderson était juste. Et je comprends pourquoi Anderson a cette impression-là, parce que quand son trio est sur la glace, c'est clair que le Canadien était la meilleure équipe sur la glace.
Oui. Ils ont été dominants par moment, il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, on va y revenir tout à l'heure, mais je voulais quand même poursuivre, parce que là, tu as fait allusion aux Maple Leafs, aux Oilers et aux Canucks de Vancouver, qui ont tous les trois des avantages numériques redoutables. Dans les derniers jours, sur athletic.com, tu as fait paraître un article concernant l'infériorité numérique du Canadien. Justement, le fait à quel point c'était crucial que l'infériorité numérique, peut-être encore plus que l'attaque à 5, soit à la hauteur de la situation face à ces équipes-là. J'en profite d'ailleurs, sans scrupule, pour vous soumettre une offre spéciale. Ceux qui ne sont pas abonnés à athletic.com, vous pouvez le faire en allant au athletic.com/support athletic et ça donne automatiquement un rabais sur votre abonnement, autant mensuel qu'annuel. Donc, athletic.com/support athletic. Et donc, pour revenir à ton article, j'aimerais ça que tu partages un petit peu l'essentiel de ta conclusion par rapport justement à la question de l'infériorité numérique et aux défis que ça pose cette année, particulièrement dans la division canadienne dans laquelle le Canadien se retrouve.
Bien, tu sais, le Canadien, on a souvent vu l'avantage numérique pendant le camp d'entraînement. On a rarement vu des exercices qui travaillaient spécifiquement sur les désavantages numériques. Ce qui faisait en sorte que, tu sais, Shea Weber, Jeff Petrie, même Alexander Romanov, mais plusieurs joueurs qui se retrouvent sur les deux unités, étaient sur l'avantage numérique et pas nécessairement sur le désavantage, mais je voulais savoir effectivement qu'est-ce qu'ils pensaient faire concernant le désavantage numérique, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, l'avantage numérique était 22e de la Ligue nationale la saison passée, mais le désavantage était 19e. Alors, c'était pas beaucoup mieux que l'avantage numérique, mais c'est l'avantage numérique qui prend une pourcentage de l'attention un peu démesuré, disons, parce que c'est tellement... Non seulement c'était mauvais, mais ça tuait le momentum du Canadien pendant plusieurs matchs, puis c'était quelque chose de mental plutôt que tactique ou quoi que ce soit. C'était devenu quelque chose où quand le Canadien avait un avantage numérique, tout le monde s'attendait au pire. Et je pense que les joueurs aussi. Là. Alors, mais d'avantage numérique, l'année passée, les Oilers étaient le meilleur avantage numérique de la Ligue. Les Canucks étaient 4e, les Maple Leafs 6e. Et souvent, quand le Canadien joue contre le Maple Leafs, ça se joue en avantage numérique, dans le sens où le Canadien ne marque pas puis le Maple Leafs marque beaucoup. C'était pas le cas hier soir, mais c'était quelque chose que le Canadien voulait améliorer. Puis, alors, j'ai demandé à un couple de personnes, Paul Byron et Claude Julien particulièrement, pour demander qu'est-ce qu'ils pensaient faire. Puis le gros de l'argument de Claude, c'était que on aime notre échec avant, on aime la façon qu'on empêche l'équipe adverse d'entrer dans notre territoire, mais une fois qu'ils sont établis dans notre territoire, on veut être plus agressif. On veut être plus sur la rondelle, on veut causer plus de. On veut mettre plus de pression sur l'adversaire et on ne veut pas être très. On veut pas être passif. Et honnêtement, j'avais hâte de voir comment ils vont faire ça parce que ça prend un peu de risque. Il faut vraiment déterminer quelles rondelles sont disponibles pour aller les chercher, aller causer une bataille pour la rondelle puis mettre de la pression. Et je trouvais que je ne l'ai pas vraiment vu. Il y avait quelques occasions où je voyais que tu sais, par exemple, un exemple qui passe en tête, à un moment donné, il y avait une rondelle le long de la bande. Je pense que c'était Matthews qui était là du côté droit, puis Lekkonen est allé foncer sur lui et a causé un revirement, puis le Canadien ont dégagé le territoire. Mais c'était très rare de voir des choses comme ça, et je trouvais que les Maple Leafs avaient beaucoup de temps avec la rondelle. Temps et espace, comme les joueurs disent, et comme Claude Julien lui-même avait dit qu'il voulait enlever ce temps et espace-là. Mais ça va être vraiment, vraiment très important. Et on va voir l'importance de ça dans les deux prochains matchs. Le Canadien prend sont en route vers Edmonton aujourd'hui. Puis avec les Oilers, c'est primordial que tu les permets pas de faire comme ils veulent en territoire offensif et leur permettre de juste jouer avec la rondelle, chercher des ouvertures, parce qu'ils vont les trouver avec des joueurs comme Connor McDavid et Leon Draisaitl. Alors, j'étais un peu... Je pense pas que les Canadiens ont vraiment fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire sur le désavantage numérique.
Non, mais je reviens à ton premier point. Le fait que ça a si peu été pratiqué durant le camp d'entraînement, étant donné que tu as des individus qui étaient déjà occupés à faire de l'avantage numérique, peut-être que ça a influencé aussi le fait que cette coordination-là, cette cohésion-là n'est pas encore au rendez-vous. Mais ce qui est... Là où ça frappe de voir qu'il n'y a pas eu de match préparatoire, c'est que si tu n'as pas eu le temps, si tu as décidé de ne pas travailler sur cet aspect-là du jeu pendant les 10 jours qui ont été à ta disposition, ben là, tu es obligé de pratiquer durant des vrais matchs qui comptent, puis tu vas en subir les conséquences. T'sais. Alors, c'est le Canadien va avoir effectivement a intérêt à régler cet aspect-là assez rapidement parce que tu prends une équipe comme les Oilers d'Edmonton, c'est pas une équipe qui est vraiment dominante à 5 contre 5, mais ses unités spéciales font toute la différence, donc ça va jouer une grosse part. Écoute, il y a eu plusieurs nouveaux joueurs dans qui ont joué leur premier match avec les Canadiens hier. Peut-être si on les passait un après l'autre pour pouvoir donner une impression, une appréciation personnelle de ces gars-là. Puis je vais commencer par Josh Anderson. Écoute, deux buts hier. Son trio, tu l'as mentionné un peu plus tôt, avec Suzuki et Drouin, c'est un trio qui est potentiellement extrêmement efficace. En tout cas, il l'a été hier. Suzuki avait peut-être eu des journées un peu plus tranquilles que ses alliés à Brossard, mais il s'est vraiment imposé hier comme étant le meilleur joueur de centre de l'équipe. Mais du côté de Anderson, comment tu as apprécié son... La combinaison gabarit et vitesse qui finalement a manqué tellement aux Canadiens au cours des dernières années. Est-ce que as-tu trouvé que ça allait justement chercher le complément que Drouin et Suzuki recherchaient?
Ben en fait, honnêtement, c'était un peu dommage qu'on n'était pas sur place. Parce que c'est un aspect du jeu de Josh Anderson que j'aurais aimé être capable de regarder. Plus spécifiquement, le suivre lui sur la glace, c'est sa propensité pour terminer ses échecs. Comme on dit, finish your check. Là, c'est... Alors, sa première présence, la rondelle était dans le territoire des Maple Leafs. C'était dégagé. Il y avait peut-être une seconde qui a passé. Puis là, tout d'un coup, je vois Josh Anderson qui sort de mon écran et j'entends un boom. c'est juste. Alors, ça, c'était clair qu'il voulait. Rendre ça évident que c'est ça que le Canadien est allé chercher, c'est ça que Marc Bergevin a donné un contrat de 7 ans à 5,5 millions par année. C'est pour avoir cette combinaison-là de vitesse, rapidité, qu'un joueur qui est capable d'effectuer un échec avant assez proche sur l'adversaire et une fois qu'il est rendu sur place, quelqu'un qui peut finir avec une certaine autorité, avec un certain aspect physique et rendre la vie un peu plus difficile sur les défenseurs adverses. Je trouve que Josh Anderson a fait pas mal tout ce que Marc Bergevin aurait pu rêver avoir dans ce joueur-là. Marque un but avec un bon release, un bon lancer, quasiment sur réception, pas exactement sur réception, mais c'était un jeu qui était pas mal planifié d'avance sur une mise en jeu en zone offensive. Jeff Petrie avec une décision très rapide. Jonathan Drouin avec une décision encore plus rapide. Josh Anderson reçoit la rondelle, puis paf, il est parti vers le filet, puis effectivement, il est dans le filet. Alors, La combinaison gabarit-vitesse de Josh Anderson, on l'a vu au camp d'entraînement. C'est frappant aux yeux le voir patiner. C'est frappant d'avoir quelqu'un comme Jeff Petrie qui le compare en termes de vitesse avec Paul Byron. Alors, l'attaquant le plus imposant et le moins imposant de l'équipe dans une conversation pour ce qui est le plus rapide. Alors, je pense que tout ce qu'on attendait de Josh Anderson, tout ce que ses coéquipiers disaient et tout ce que Marc Bergevin avait dit de lui, on l'a vu sur la glace dans un gros match d'ouverture à Toronto. C'était un gars de Burlington en banlieue de Toronto. Alors, c'est un gros moment pour lui, mais je pense que c'était clair qu'il voulait vraiment montrer aux partisans, puis surtout à ses coéquipiers et puis à ses entraîneurs, puis au management que c'est ça que je suis. Puis vous avez pris la bonne décision en m'amenant ici.
Ouais. Il a terminé premier de l'équipe avec 7 tirs au but hier. Suzuki était deuxième avec 6. Tu rajoutes le tir au but de Drouin, donc à 14 tirs au but pour ce trio-là. Écoute, c'est pas loin d'être la moitié des lancers que le Canadien a effectués hier. Donc, on parle de 14 sur 32. C'est quand même une bonne soirée de travail pour ce trio-là. Et ouais, Anderson n'a pas raté sa rentrée. Alexander Romanov non plus.
Non.
Moi, écoute, j'ai été. Je sais que on peut regarder les statistiques avancées. Puis il y a un lecteur qui me faisait remarquer ce matin que les buts, le pourcentage de buts attendus, les expected goals de Romanov à la fin de ce premier match-là étaient en bas de 50%. Dépendant d'où on va les chercher, c'est autour de 38 ou 40% dépendant du site qu'on consulte. Mais honnêtement, c'est pas les statistiques avancées que je retiens de ce match-là, pas du tout. Dans son cas, moi, c'est l'aisance avec laquelle il a joué, son niveau de confiance, de sang-froid. C'est son premier match en Amérique du Nord, et puis c'est comme s'il avait toujours fait ça. Il agit comme un vétéran. Il lui est arrivé de prendre des décisions qui étaient un petit peu téméraires. Il a failli se brûler vraiment une fois en particulier où il a commis un revirement en zone adverse qui a créé un surnombre du côté des Leafs puis qui a embouteillé le Canadien après ça dans sa zone pendant plusieurs secondes. Mais écoute, de manière générale, c'est simplement sa vision du jeu, sa prise de lecture de ce qui se passe sur la glace. Quand il est en position de la rondelle, il repère la bonne option. Ses passes sont précises, sont franches, sont crisp. Et dans tous les aspects du jeu, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de la décision d'aller appliquer une mise en échec, son travail le long des bandes également pour essayer des batailles à un contre un, que ce soit dans l'utilisation de son bâton, de son corps ou même parfois de son patin pour pouvoir sortir de là avec la rondelle. Il y a un paquet de petits aspects dans son jeu que je trouve sont très encourageants parce que c'est un premier match, mais tu dis il est capable de répéter si c'est comme ça qu'il joue. Je faisais le parallèle dans l'article que j'ai écrit à son sujet la nuit dernière, que si on regarde le premier match dans la Ligue nationale de Ryan Poehling, 3 buts, un but gagnant en tir de barrage, c'est une soirée conte de fées, la soirée d'une vie. Mais tout le monde savait que ça n'allait pas être comme ça tous les soirs avec Ryan Poehling. La vérité de ce que Ryan Poehling est comme joueur d'hockey, ce n'était pas ce qu'on voyait ce soir-là. Tandis que tu regardes le jeu de Romanov, les décisions qu'il prend, les atouts dans son jeu, puis tu te dis il peut très bien faire un copier-coller de ça et continuer, puis s'avérer très rapidement un défenseur fiable pour le Canadien. Puis quand tu regardes le temps de glace que Claude Julien lui a donné, il coûte pas loin de 22 minutes, c'est assez impressionnant quand même. Ça démontre que non seulement le kid a confiance en lui, mais son coach immédiatement a eu confiance en lui également.
Oui, puis ce que je dirais au lecteur qui a mentionné sa part de but attendu, oui, c'est un bon point, puis c'est vrai, c'est là en noir et blanc dans les chiffres, mais j'irais aussi voir sa répartition des minutes et de ses adversaires. Il a joué à peu près 16 minutes à 5 contre 5. Un peu plus que 15 minutes. Non, 16 minutes, je m'excuse. 15 minutes. 15 minutes à 5 contre 5. Puis ces 15 minutes-là ont plus ou moins été également reparties contre Alexander Kerfoot comme joueur de centre, qui est pas mal normal. Mais Austin Matthews et John Tavares, tous ces trois joueurs de centre, ils ont joué entre 4 et 5 minutes contre chacun d'entre eux. Alors, tu sais, c'est un peu normal que dans ton premier match en Amérique du Nord, non seulement dans la Ligue nationale, Ligue américaine, peut-être qu'on aurait pu penser qu'il allait commencer dans la Ligue américaine, mais étant dans la Ligue nationale, puis il a affronté souvent deux joueurs de centre dominants, deux des meilleurs joueurs de centre de la Ligue, en Austin Matthews et John Tavares. Puis, il n'était pas... Tu sais, on regardait... Moi, je regardais, en tout cas, je regardais pas le match, puis ça sautait pas aux yeux que Romanov était sur la glace contre eux. Tu sais, je le remarquais parce que je suis comme, « Oh, regarde, tu sais, c'est Alex Romanov, puis il donne une mise en échec contre Austin Matthews. C'est toute une tâche que Luke Richardson et Claude Julien se donnent à lui, mais c'est clair que Luke Richardson avait le mandat de ne pas le protéger. C'est ça qui m'a frappé aux yeux, c'est que contre les Leafs, même s'il était sur la route et il ne contrôle pas nécessairement les match-ups, Claude Julien trouve toujours une façon de garder certains de ses joueurs en protection, de ne pas les envoyer sur la glace dans des situations difficiles contre des adversaires difficiles. C'était pas le cas d'Alexander Romanov. Il a joué dans toutes les situations, il a joué contre tous les joueurs que tu aurais pu penser que le Canadien aurait aimé ça, qu'il évite dans son premier match dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, moi, mon avis avec Alexander Romanov, quand tu vois un match comme ça, oui, il a fait des jeux qui étaient quand même assez impressionnants. Tu sais, je pense lui aussi, très tôt dans le match, quand il a contourné son filet, puis il avait la tête soulevée, comme est souvent le cas avec lui, puis il trouve Tyler Toffoli en diagonale, dans sa zone, à la ligne bleue, in stride. Tu sais, Tyler Toffoli, il reçoit la rondelle, puis il n'a pas besoin d'arrêter, il n'a même pas besoin de ralentir pour prendre la passe. Puis les Canadiens s'en vont en zone offensive, puis il y a une chance de marquer créée très peu après ça. Ça, c'était un de ses premières présences, sinon sa première présence. Puis de là, c'était les jeux qui ont juste continué comme ça. Alors, ce qui m'a frappé pendant le camp d'entraînement, c'est que tu regardais jamais un exercice, puis tu disais jamais que, ah, il y a quelqu'un là qui est nouveau. Il y a quelqu'un là qui a peut-être pas sa place. Ce qui est souvent le cas, c'était le cas avec Jesperi Kotkaniemi tôt dans son camp d'entraînement, Ryan Poehling, même Nick Suzuki. Tu sais, c'est normal pour un recrue à son premier camp d'entraînement de la Ligue nationale qui saute aux yeux dans le sens où c'est clairement un joueur qui espère devenir un joueur de la Ligue nationale. Dans le cas de Romanov, la façon que je le décris, c'est...
Il l'est déjà.
C'est un défenseur de la Ligue nationale de hockey, puis il l'a été depuis le premier jour du camp d'entraînement, la première fois qu'il a sauté sur la glace. Et je pense que son premier match dans la Ligue nationale a démontré aussi, oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des risques, il y a eu des décisions. Moi aussi, je pense à un moment donné, sur le jeu de puissance, quand il y avait la rondelle à la ligne bleue, puis il y avait une chance qu'il donne une échappée aux Maple Leafs, mais il a réussi à garder la rondelle dans le territoire offensif. Mais tu sais, c'est normal, ces choses-là. Ils vont travailler avec lui là-dessus. Ça serait beaucoup plus important de mettre l'emphase sur le positif dans son cas. Et pas essayer de trouver des bibittes dans son jeu pour son premier match en Ligue nationale, parce que, à mes yeux, c'était clairement un défenseur de la Ligue nationale qu'on a vu dans ce match-là.
Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Tu parlais de pas chercher les bibittes dans le cas d'Alexander Romanov. Je dois admettre cependant que c'est un petit peu plus facile d'en trouver au sujet de Joel Edmondson qui a pas eu exactement la rentrée espérée ou disons le début de carrière idéal avec les du moins dans l'uniforme du Canadien. J'ai trouvé que Edmundson, ça avait été souvent lourd et compliqué. C'est souvent retrouvé au milieu des chances de marquer des Maple Leafs. Et que ce soit, à un moment donné, il perd son bâton, il n'est pas capable de bloquer un lancer. À un moment donné, il fait une chute, il essaie d'aller aider ses coéquipiers puis d'appuyer l'attaque, mais il fait une chute en territoire adverse. Ça mène à un surnombre des Maple Leafs. J'ai trouvé que, de manière générale, ça avait été laborieux pour lui. Et je sais que Claude Julien avait un peu préparé le terrain en disant, vous savez, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il s'ajuste. Mais en même temps, je me souviens très bien que on avait fait le parallèle avec... on a beaucoup parlé au fil du temps de Carl Alzner et de ses difficultés à s'ajuster à une défensive de zone parce qu'il était très habitué à une défensive homme à homme. Mais Edmundson a passé une saison avec une défensive homme à homme en Caroline. Là, avec le Canadien, lui, il retrouve le style de jeu ou le modèle défensif qu'il avait connu pendant des années avec les Blues de Saint-Louis. Donc, ça ne devrait pas, en principe, prendre beaucoup de temps pour qu'il trouve ses repères. Alors, je t'avoue que c'est un premier match qui m'a inquiété un petit peu.
Oui, effectivement. Puis, dans le fond, l'inquiétude, c'est que Edmundson avait l'air du joueur que pas mal tout le monde s'attendait après sa signature. Tu sais, sa signature était très critiquée. Au niveau des statistiques avancées, c'était clair que c'était pas un joueur qui était nécessairement qui avait un bon impact ni offensif, mais particulièrement défensivement non plus. Pour un joueur qui a la réputation comme défenseur défensif, ses chiffres défensifs n'étaient pas vraiment hallucinants. Là. C'était hallucinant du mauvais sens, mais on a vu tout ça. T'sais, c'est honnêtement quand il est tombé en essayant de s'offrir comme option de passe dans le territoire des Maple Leafs, très tôt dans le match, ça a mal commencé sa soirée. Puis ce qui est dommage là-dedans, c'est que Jeff Petrie se retrouve avec ça. Puis c'est un peu comme si on gaspille les minutes de Jeff Petrie. Jeff Petrie, à part sur le jeu de puissance, puis peut-être quelques présences où il a pu, qui a pu avoir un impact sur le match, se retrouver souvent dans son territoire, en train d'essayer de compenser les erreurs d'Edmundson. Ce qui est dommage. Si ça continue, ça va être difficile pour Claude Julien de garder Edmundson à ce poste-là, à côté de Petrie. C'était pas bon signe pour un premier match, mais moi, je vais lui donner une... Tu sais, c'est important de pas trop juger après un match, parce que je pense que l'année passée, si on aurait jugé Ben Sherratt, après ses 3-4 premiers matchs avec les Canadiens, c'était un peu la même chose. Là. C'était difficile pour lui de s'ajuster. C'était difficile pour lui de... Puis il a mal paru dans ses premiers matchs, mais ça, après un petit bout, on a vu le joueur qu'il était à son plein potentiel. Puis soudainement, son début a été complètement oublié. Je ne sais pas si ça va arriver avec Edmundson. Je dois avouer que je suis un peu plus sceptique que ça va avoir le même cheminement que Ben Sherratt. Mais je pense que ça serait important pour le Canadien de trouver une bonne chaise pour lui. Je ne pense pas qu'il est dans la bonne chaise en ce moment. Jouer un rôle de top 4 avec ton meilleur patineur en défense, en Jeff Petrie. En théorie, c'était supposé libérer Jeff Petrie pour appuyer l'attaque un peu plus souvent. Mais le résultat, c'était que Jeff Petrie se retrouvait sans la rondelle en train de défendre dans son territoire plus souvent que non. Alors, c'est... Tu sais, je pense que peut-être pas tout de suite, mais si ça continue comme ça, il va falloir que Claude Julien s'assoie avec Luke Richardson puis dise que, écoute, on a un défenseur sur notre équipe qui a fait très bonne figure avec Jeff Petrie l'année passée en Brett Kulak. Pourquoi on ne revient pas avec ça? Pourquoi on n'essaye pas ça? Le seul problème là-dedans, ça devient que si tu fais ça, puis que si Edmundson continue à jouer comme il a joué hier soir, ça veut dire que tu mets ça dans les jambes d'Alexander Romanov aussi, ce qui n'est pas idéal non plus. Alors, mais je suis prêt à donner une opportunité à Joel Edmundson de se reprendre. C'est clair qu'il a connu un mauvais match. C'est clair qu'il était le pire joueur du Canadien en ce match-là, même si Jake Evans a connu une soirée difficile. Mais je veux pas juger trop sévèrement après un match. Je vais lui donner du temps, mais je pense que rendu à la fin de ce voyage-là, après deux matchs contre les puissants Oilers en termes de leurs joueurs de talent très élevés, Draisaitl et McDavid, puis après trois matchs à Vancouver contre une autre équipe qui a du talent de haut niveau en haut de l'alignement, on va avoir une très bonne idée après six matchs de ce que le Canadien doit faire avec ce joueur-là, mais après un match, c'est clair que Joel Edmondson a connu un mauvais début dans l'uniforme du Canadien, pour être poli.
Ouais, c'est, mais je pense que Ben Chiarot est son meilleur ami. Tu sais, je sais que la critique à Montréal peut parfois être sévère, puis on regarde les choses, on met tout sous la loupe. Mais je pense que quand on se rappelle, justement, comme tu disais, du début de saison de Chiarot l'année dernière, c'est ce qui finalement peut le plus permettre à Edmondson de gagner du temps. Sauf que les options sont... Les alternatives sont problématiques dans les deux cas. Puis je pense que tu l'as bien illustré par rapport à Kulak et Romanov. C'est-à-dire que si tu remets Kulak avec Petrie, je pense que le Canadien avait une formule gagnante. Puis ça fait deux ans qu'il essaie de se créer un problème là où il n'y en a pas avec ce duo-là. Parce que Kulak est toujours meilleur quand il joue avec Petrie que quand il vous joue avec un autre joueur. Quand on lui donne un rôle moindre, il est toujours plus sur les talons et il est moins efficace. Ouais. Par contre, dans les séquences où il a été avec Petrie, je pense qu'en général, ça allait bien. Mais à ce moment-là, si tu te retrouves avec... si tu confies Edmondson à Romanov, ça devient compliqué pour Romanov. Et si tu dis, ben on va faire la promo... On va promouvoir Romanov, l'envoyer sur le top 4, ben là, à ce moment-là, un duo Kulak-Edmondson... Va rendre l'entraîneur encore plus méfiant, puis à ce moment-là, tu vas réduire les minutes de ton troisième duo au lieu de les équilibrer comme il est à même de le faire en ce moment, puis de concentrer l'utilisation sur tes deux premiers duos de défenseurs, puis en donner moins à ton troisième. Je ne pense pas que ce soit l'objectif voulu non plus. Idéalement, on voulait trouver des combinaisons où le Canadien pourrait avoir ses trois duos défensifs, ses trois duos en défense qui partagent, peut-être pas équitablement, mais qui donnent quand même au troisième duo 18 minutes par match, puis qui fait en sorte que ça réduit un petit peu la tâche de gars comme Shea Weber, par exemple. Alors, j'ai hâte de voir comment le Canadien va se repositionner par rapport à Edmondson, mais bon, ce n'est qu'un match. Tyler Toffoli, maintenant. Tyler Toffoli, moi, je dois dire que il est exactement le joueur auquel je m'attendais. D'une part, parce que c'est pas un gars qu'on voit constamment dans un match. C'est un gars qui parfois réapparaît aux bons endroits pour pouvoir tenter des tirs au but puis obtenir des chances de marquer. En plusieurs occasions, il a bénéficié de courtes passes qui lui ont permis de tirer à bout portant là, quand il était quand même assez proche du filet adverse. J'ai trouvé qu'il y avait déjà une bonne chimie d'installer avec Jesperi Kotkaniemi. Le fait qu'il joue à gauche, ça ne semble pas trop l'importuner, du moins quand tu regardes la façon dont ce trio-là déploie son attaque. Le fait que Toffoli attaque la gauche, je ne pense pas que ça pose vraiment problème. On parlait de lui également comme un gars qui était efficace en transition, puis très souvent, on l'a vu revenir aux abords de la ligne bleue défensive, puis participer finalement à la relance de l'attaque. Je pense que ce n'est pas un gars qui reste statique en disant ben, « j'attends que la rondelle vienne à moi ». De manière générale, je trouve que c'est des débuts encourageants pour lui. C'est peut-être pas le joueur le plus flamboyant que le Canadien va avoir sous la main, mais je vois très bien le gars qui pourrait marquer 20-22 buts avec le Canadien cette année. Puis s'il est en mesure, du côté gauche, de développer une belle chimie avec Kotkaniemi, ça va être très intéressant pour le Canadien parce que Kotkaniemi, lui, a vraiment l'air prêt à faire passer son jeu à un autre niveau et à faire en sorte que le Canadien peut avoir trois lignes d'attaque quand même assez menaçantes.
Oui, je trouvais que oui, effectivement, Kotkaniemi avait l'air très en forme dans ce match-là. Je pense qu'il a joué un très bon match. Puis moi, l'aspect de Toffoli qui m'intéresse le plus et que je savais pas ou je connaissais pas de ce joueur-là, c'est à quel point il est efficace dans sa zone puis à quel point il est acharné quand il n'y a pas la rondelle. Ce que moi, à mon avis, va être une grande aide pour Kotkaniemi si jamais il reste avec Toffoli. parce que c'est un gars qui est très... tu sais, il y a un mandat en zone défensive. T'as vraiment l'impression que reprendre la rondelle, c'est quelque chose qui est très important aux yeux de Tyler Toffoli et qui n'a peut-être pas la même importance aux yeux de Jesperi Kotkaniemi ni Yoel Armia. Tu sais, ce sont des joueurs qui sont corrects dans leur zone, mais pas plus que ça. Mais Toffoli, je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des bonnes décisions, appuyer la défensive, si vous voulez, ou appuyer ses défenseurs au bon moment, puis effectivement reprendre possession de la rondelle pour que Kotkaniemi et Armia pourraient relancer l'attaque. Ça, c'est un aspect de son jeu que je ne connaissais pas. T'sais, Claude Julien avait mentionné comme quoi il a grandi dans l'organisation des Kings sous Daryl Sutter, qui est très exigeant en termes de jeu défensif et jeu sans la rondelle. Puis c'est une équipe qui était très axée sur la possession de la rondelle à l'époque. Alors, ça ne devrait pas me surprendre, mais c'est vraiment un aspect de son jeu que je ne connaissais pas. Puis on l'a vu un peu dans les matchs intra-équipe. En fait, je trouve qu'on l'a vu beaucoup dans les matchs intra-équipe, mais c'est une chose de voir dans les matchs intra-équipe, c'est une autre chose de les voir à Toronto contre les Maple Leafs, contre des joueurs offensifs qui sont quand même assez talentueux, mais je trouvais que Toffoli... C'était ça l'aspect du jeu de Toffoli qui m'a surpris un peu, que je ne m'attendais pas autant quand l'entraînement a commencé, mais depuis le début du camp, puis même dans le match contre Toronto, je trouvais que c'est un joueur qui a aidé ses compagnons de trio à reprendre possession de la rondelle puis aller en attaque. Alors ça devrait aider Kotkaniemi beaucoup. Parce que, tu sais, Nick Suzuki a cet aspect-là dans son jeu. Il est capable de faire ça lui-même. Kotkaniemi, un peu moins. Tu sais, il a pas les instincts défensifs que tu aimerais avoir dans un joueur de centre. Puis il a seulement 20 ans. C'est très possible qu'il va les développer avec le temps, là, mais en ce moment, il les a pas. Alors, avoir un joueur comme Toffoli avec lui, je pense que ça va lui aider. Puis, effectivement, quand le Canadien avait la rondelle, puis particulièrement quand lui, il avait la rondelle, Kotkaniemi avait l'air très menaçant. Puis comme troisième centre, là, ça va être très intéressant pour le Canadien d'avoir ce trio-là, particulièrement Kotkaniemi avec tout ce qu'on a dit sur Toffoli, jouer contre les troisièmes trios adverses. C'est là où le Canadien va vraiment commencer à tirer un avantage si jamais Suzuki est neutralisé un peu par le premier trio, le deuxième trio de l'adversaire. Même chose, le trio d'Ano qui a connu un match assez plus ou moins tranquille contre Toronto. Mais quand tu te rends au troisième trio, je pense que c'est là que le Canadien peut vraiment commencer à montrer à quel point ils sont une équipe, plutôt que des joueurs individuels ou des talents individuels. C'est une équipe qui a beaucoup d'équilibre et une équipe qui a beaucoup de talent. C'est là où ça peut se trouver, parce qu'avoir Tyler Toffoli sur ce trio-là le rend très, très menaçant comparé à beaucoup d'autres troisième trios de la Ligue nationale.
Oui. Ben, dans le cas de Kotkaniemi et son jeu défensif, je pense que s'il est en mesure de faire confiance à son coup de patin davantage. Si on le voit qu'il est plus explosif qu'il était autrefois, il a gagné beaucoup de puissance dans ses jambes, il a gagné de l'équilibre, de la force et de la vitesse également. On le voit en échec avant quand il décide d'aller faire de la pression sur le défenseur adverse en zone offensive, quand le défenseur adverse est en possession de la rondelle, sa pression en échec avant, elle saute aux yeux, mais de la même manière, il peut, je pense, aller aider profondément dans sa zone puis donner un coup de main au défenseur avec plus de confiance en se disant « je ne sacrifierai pas trop mon attaque parce que j'ai maintenant le coup de patin qui va me permettre à la fois d'aider à reprendre possession de la rondelle en zone défensive et puis à orchestrer la contre-attaque parce que j'ai maintenant les outils puis la vitesse qu'il me faut pour faire ça. Alors, c'est un apprentissage. Le kid est encore jeune, comme tu le disais, mais d'avoir un gars comme Toffoli qui s'en est fait une fierté de développer son jeu sur 200 pieds. J'ai parlé à plusieurs personnes durant l'automne pour écrire un long papier sur Toffoli. Et entre autres choses, son père me disait que c'est vraiment quelque chose dont il retire une fierté, justement cet aspect-là, son jeu sans la rondelle. Et c'est pas un hasard. Avec les Kings, ça a été le début de la fin pour Toffoli avec les Kings à partir du moment où Daryl Sutter n'a plus été derrière le banc de cette équipe-là. Mm-hmm. de manière générale, c'est une équipe qui a perdu son identité par la suite, que ce soit John Stevens derrière le banc ou encore pire avec Willie Desjardins après. C'est une équipe qui se cherchait, qui avait plus de structure. Et puis, Toffoli reflétait ça. C'est pas nécessairement sa faute personnellement, mais bon, il a été un peu emporté par la vague à Los Angeles. Mais c'est un gars qui veut contribuer, pas seulement en marquant des buts, pas seulement en ayant l'air de l'autre numéro 73 d'il y a 10 ans, Michael Ryder. Ouais. il veut être un gars qui, à sa façon, va avoir un impact dans les trois zones. Puis je pense que là-dessus, s'il n'avait pas été comme ça, je doute qu'il aurait vraiment intéressé le Canadien. C'est bien beau de vouloir marquer des buts, mais quand on connaît la façon dont le Canadien pense, que les coachs pensent, qu'un directeur général qui est un ancien défenseur, il valorise tellement la responsabilité défensive puis le jeu justement sur 200 pieds qu'il faut que tu aies ça un peu dans ton jeu pour attirer l'intérêt des dirigeants. Et puis Toffoli a ça, à mon avis.
Oui. Non, je suis entièrement d'accord. Puis effectivement, oui, je trouvais qu'il y a eu un bon début. C'est pas un nouveau joueur, mais j'aimerais parler un peu de Jake Evans, effectivement, parce que il a connu une soirée difficile, surtout dans le cercle des mises en jeu, mais en général, je trouvais qu'il était pas très... il avait l'air nerveux, honnêtement, avec son premier match contre les Leafs dans sa ville natale. Ça avait l'air un peu trop gros pour lui. Sauf que je trouvais que toi, tu avais fait un bon point hier soir sur la machine de Twitter, là. Mais c'est quand même... Ça reflète quelque chose où le fait qu'il soit entouré par Paul Byron et Arturi Lehkonen fait en sorte que Claude Julien a l'option de juste enlever Evans du trio dans une situation... où le match était serré en troisième période, égalité ou avance d'un but. Il y a l'option de juste simplement enlever Jake Evans de là, puis insérer Phil Dano entre les deux. Puis tout d'un coup, tu as le même trio qui était tellement bon en série l'année passée, ou la saison passée, je veux dire. Et c'est un trio qui, instantanément, devient très efficace défensivement, très rapide. Bon échec avant, bon échec point, et t'es capable d'ajuster au fur et à mesure. Tu sais, c'est un peu l'opposé de Joel Edmondson. Tu sais, Joel Edmondson, quand il connaît une soirée comme il a connu hier, les Canadiens, ils sont mal pris, là. Ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est pas comme ils peuvent juste l'asseoir puis tout reste stable. Tandis que si Jake Evans connaît une soirée comme il a connu à Toronto, la solution est très simple. Oui, ça va donner beaucoup plus de minutes à Phil Dano, puis effectivement, il était l'attaquant le plus utilisé du Canadien. Mais ça, c'est une solution qui est facile à prendre, qui est facile à implémenter ou à décider de le faire à un moment donné du match. Et ça va permettre à Jake Evans, je pense, de tranquillement retrouver la qualité de son jeu qu'on voyait en série. Et qu'on voyait à plusieurs reprises depuis son rappel de Laval la saison passée.
Mm-hmm. Mais le fait aussi que Evans a eu des ennuis au cercle de mise en jeu, il en a remporté une seule sur sept, ça n'aide pas sa cause parce que, étant donné que Claude Julien entend lui donner des missions défensives cette année, le moment auquel tu fais référence en troisième période où Dano est allé le remplacer, ça commençait par une mise en jeu en zone défensive. Je pense que si Evans avait connu une meilleure soirée au cercle de mise en jeu, peut-être qu'il aurait été celui vers qui Julien se serait tourné en disant « on va quand même lui donner cette mise en jeu-là ». Tandis que là, c'est plutôt Dano qui est allé la prendre. Sauf que si cet élément-là de son jeu n'a pas d'impact positif dans l'équipe, très rapidement, tu dis, OK, où est-ce exactement Evans va pouvoir nous aider par rapport à une autre option? C'est-à-dire que si, ce que je veux dire par là, c'est que s'il connaît des matchs difficiles, quelles sont les autres possibilités pour le Canadien de se doter d'un quatrième centre? Est-ce que tu vois un ailier pouvant être placé au centre du quatrième trio si jamais le Canadien dit, ah, vous savez... on va faire sauter un match à Evans, on va mettre tel gars au centre. Est-ce que tu penses que ce soit un Est-ce que Paul Byron au centre, c'est une option? Est-ce que tu penses que le Canadien se tournerait vers son équipe de réserve et donnerait la chance à Ryan Poehling de se faire valoir? Parce que si tu fais ça, Poehling, je pense, va devenir un bon joueur défensif également, mais c'est quand même, ça donne une personnalité différente à ce quatrième trio-là, si c'est ce qui se passe.
Oui. Ben, je pense que Poehling, si jamais Evans, ça ne marche pas avec Evans, je pense que Poehling aurait sa chance, mais l'autre possibilité, et tout ça, ça vient d'une réponse que Claude Julien a donnée quand il était demandé une question de... Effectivement, il était demandé cette question-là, pas dans ce sens-là, mais il a demandé, tu sais, c'est où tes solutions possibles à position de centre. Tu sais, il a mentionné Poehling, mais il a mentionné Paul Byron qui est capable de jouer au centre. Puis ça m'a frappé un peu dans le sens où j'avais jamais pensé que Paul Byron était une option à position de centre. Je pense qu'il l'a joué dans le passé, peut-être, mais pas vraiment depuis qu'il est arrivé à Montréal. Là. Moi, je me rappelle pas de l'avoir vu jouer au centre.
Oui.
Mais
il y a eu. Mais c'est rare, mais je me souviens, il y a une séquence à un moment donné, de 3-4 matchs vers la fin d'une saison. Mais écoute, ça fait déjà. Ça doit faire probablement 3 ans. Ça fait un bout de temps.
Sauf que cette réponse-là, parce qu'à un moment donné, tu as aussi le fait que Claude Julien il va vouloir utiliser Corey Perry. Ça, c'est clair. Éventuellement, ouais. il va falloir qu'il l'insère dans l'alignement. Il y a des options pour le faire. Une option, ça serait de retirer Paul Byron. Une option serait de retirer Yoel Armia de temps en temps. Une autre option serait de mettre Paul Byron au centre puis mettre Perry à droite sur le quatrième trio. Je serais intéressé de voir si Claude Julien va essayer ça, mais je trouvais ça quand même intéressant qu'il mentionne le nom de Paul Byron comme étant une possibilité à la position de centre, quand moi, j'avais jamais considéré que c'était une possibilité.
Dans le cas de Byron, si ma mémoire ne me fait pas défaut, tu te souviens une des blessures à la bouche de Philippe Dano, là, tu sais, quand il est revenu et il avait sa grille, là. Pendant son absence, je pense qu'il y a eu des matchs où Byron avait joué au centre.
Ah, OK.
Mais c'est ça, ça remonte déjà il y a un bout de temps.
Ouais.
Mais le Canadien n'a jamais exploité cette possibilité-là, ne l'a jamais même testé à l'entraînement. Donc
ils l'ont jamais même mentionné. C'est la première chose, c'est la première fois que j'entends Claude Julien dire Paul Byron, c'est une option en centre. Et alors c'est ça, je le mentionne comme ça parce que effectivement, je pensais à comment il allait insérer Corey Perry dans l'alignement, comment va-t-il le faire. Et ça, c'est une option pour être capable de le faire et donner un peu de repos à Jake Evans. Mais une chose qui vaut la peine de mentionner, oui, Jake Evans a connu une très mauvaise soirée dans la série de mise en jeu hier soir. Sauf que l'année passée, en 13 matchs, il a quand même remporté 51,8% de ses mises en jeu. Alors, je pense que Claude Julien a une certaine confiance que oui, même s'il a connu une mauvaise soirée, puis il va en avoir d'autres, c'est quand même quelqu'un qui a démontré d'une certaine façon qu'il est capable de remporter ces mises en jeu-là la saison passée.
Ouais, puis quand je lui ai posé la question à propos d'Evans il y a 3 ou 4 jours, Claude disait il a l'air d'un gars qui a plus de confiance en lui qu'il en avait auparavant. Puis s'il continue à démontrer cette confiance-là, il dit je pense qu'il va surprendre bien des gens cette année.
Ouais.
Donc, Evans peut compter sur Claude Julien. C'est un gars que Claude Julien est dans son camp. Alors, c'est pas demain la veille qu'il va se faire donner des possibilités de se faire valoir. Mais Claude Julien dit Byron est une option au centre. Il a également dit Armia est une option à l'aile gauche alors qu'on n'a jamais vu Armia à l'aile gauche.
Ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes de choses. Romanov a joué à droite beaucoup dans le passé. Il y a toutes sortes de positions que ces joueurs-là ont jouées que Claude Julien est au courant puis que nous, on n'a jamais vu. Alors, c'est c'est ça. Claude. Puis ce qui est normal, Claude connaît ses joueurs plus que nous, ça c'est bien normal, mais oui, c'est ça. Ça m'a surpris d'entendre ça avec Paul Byron. Puis c'est là que j'ai catché qu'effectivement, ça se peut que c'est ça la façon que Claude Julien pense insérer Corey Perry dans l'alignement à un moment donné. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver un jour, bientôt, je pense, que Corey Perry va jouer son premier match avec le Canadien. Il va falloir qu'il y a quelqu'un qui sort. Et ça ne me surprendrait pas si ce serait Jake Evans plutôt que Paul Byron qui sort.
Ouais. Écoute, en terminant, Arpin, on a fait un tour d'horizon aujourd'hui des, euh, des nouveaux arrivants, de la façon dont les nouveaux visages du Canadien ont disputé leur premier match. Tu as évoqué plus tôt les deux matchs contre Edmonton, les trois ensuite contre Vancouver. Je vais te poser deux questions. D'abord, à quel moment penses-tu que le Canadien va avoir recours à Jake Allen pour la première fois? Mais de manière plus globale, où est-ce que qu'est-ce qui, à ton avis, devient l'élément central pour que le Canadien fasse de ce premier voyage-là un succès? Quel aspect de son jeu penses-tu qu'il va devoir vraiment mettre de l'avant pour pouvoir remporter une majorité de matchs?
Premièrement, concernant Jake Allen, je pense qu'on va le voir pour la première fois à Vancouver. Il y a deux matchs en deux soirs. En fait, il y a trois matchs en quatre soirs à Vancouver. C'est clair qu'il va jouer un de ces trois matchs-là. Et probablement, on va le voir encore pas très long après ça. T'sais, parce que, encore une fois, c'est pas juste les matchs, les deux matchs en deux soirs, les séquences de deux matchs en deux soirs où on va voir Jake Allen. Il va falloir qu'il joue dans des moments où Carey Price il n'y a aucune raison de ne pas jouer Carey Price. Il faut que Carey Price rate des matchs où il est frais, dispo et prêt pour que Jake Allen joue le nombre de matchs que le Canadien espère qu'il joue cette année. Alors, je pense que c'est probable que Carey Price va jouer les deux matchs à Edmonton puis Jake Allen aura un à Vancouver. Mais après ça, il va falloir qu'il commence à jouer des matchs sur une base... parce que dans le fond, la particularité du calendrier de Canadiens, c'est qu'ils ont deux périodes de repos dans leur calendrier. C'est après qu'ils reviennent de Vancouver. Ils ont pas mal quatre jours de congé. Puis on a une autre semaine. Ils ont comme un bye week comme normal en février. C'est vraiment... À compter de mars, le mois de mars et le mois d'avril sont super, hyper chargés. Je pense qu'ils ont 16 matchs par mois en mars et avril. Alors, c'est surtout là qu'on va voir Jake Allen jouer sur une base plus régulière. Mais moi, je m'attends à le voir une fois à Vancouver, puis probablement une fois dans la série de 5 matchs à domicile qu'ils vont jouer ici, là, puis probablement contre Ottawa le 4 février, mais on verra. Okay. Pour la deuxième question, en termes de voyage, honnêtement, je pense que beaucoup des éléments qu'on a vus contre les Maple Leafs, ils ont juste besoin de continuer à faire ça. Peut-être éliminer quelques-uns des punitions qu'ils ont pris. Mais à part ça, je peux pas vraiment trouver de raison. Tu sais, s'ils jouent comme ils ont joué à Toronto... je pense qu'ils vont connaître un assez bon voyage dans l'Ouest. Là. J'étais assez impressionné avec la façon que Canadien a joué. Puis, parce que c'est une bonne équipe, les Maple Leafs. Là. On ne peut pas se cacher. Je sais que tout le monde haït les Maple Leafs, mais c'est probablement la meilleure équipe de la section. Et je trouve que Canadien a lancé un petit message que ça va être pas facile contre eux cette année.
Non, c'est vrai. Je pense pas qu'on doive prendre trop de tirer trop de conclusions d'un seul match puis espérer que Claude Julien se mette à chambouler plein d'affaires. Si tu veux avoir du succès, il faut que tu croies en ta formule, puis tu peux pas remettre ta formule en question après un match. Ouais. Sinon, tu t'installes un doute qui va rester là pour l'ensemble de la saison. Alors, là-dessus, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique aujourd'hui. On va vous revenir la semaine prochaine. Je pense qu'on reprend notre cadence hebdomadaire ininterrompue. Et puis, on verra bien d'ici ce temps-là. C'est certain qu'avec tous les matchs que le Canadien dispute, on va avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Moi, je vais te dire, je vais te donner ma réponse par rapport à Jake Allen. J'ai l'impression, tu dis qu'il faut que le Canadien trouve des façons de faire donner des matchs à Allen dans d'autres circonstances que les automatismes de deux matchs en deux soirs. Je pense que pour cette raison-là précise, je m'attends à le voir en uniforme pour peut-être le deuxième match contre Edmonton et un des trois matchs à Vancouver. Alors, de cette manière-là, après les six premiers matchs du Canadien, Price en aurait joué quatre et Allen en aurait joué deux. Puis après ça, tu aurais les quatre jours de congé puis tu peux revenir avec un Price qui est complètement frais et dispo. On verra si c'est ça. Mais si Allen n'est utilisé que dans un seul des matchs à Vancouver, ben là, ça a l'air d'un début de saison où il est utilisé comme les seconds des autres années, les Kincaid et puis les les Lindgren et les autres de cet acabit. On verra bien. Alors, ben merci tout le monde encore d'avoir été là. Merci, Harpin.
Merci, Marc-Antoine.
On se reparle bientôt. Bye-bye, tout le monde.